Si nous avons commencé cette soirée par le chant de l'Esprit Saint, c'est à la demande du Père René Luc. C'est pour que nous soyons tout de suite à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire à travers son témoignage. Le Père René Luc nous a rejoint cet après-midi. Il est prêtre diocésain du diocèse de Montpellier. Et il est. Il a soif. Il a surtout aussi rencontré des jeunes. Et depuis la publication de son livre Dieu en plein cœur, qui a eu beaucoup de succès dans les pays francophones, son évêque lui a demandé de partir une semaine par mois en mission en France et à l'étranger. Et donc, ce soir, il va nous raconter, nous témoigner son récit de conversion. Et vraiment, je nous invite tous à nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire et de voir comment, à travers ce récit, le Seigneur veut me parler aujourd'hui, ce soir, ici et maintenant. Nous allons te confier à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, et si
est-ce que je peux demander au groupe de jeunes avec qui je partage tout à l'heure de venir ce soir devant pour des articulations qui sont en bonne santé là. Je vous vois un peu dispersés. C'est possible, non? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous là. Voilà. Et alors, si c'est possible, ceux qui sont complètement sur la gauche là, si vous arrivez à vous ramasser, parce que l'église est tellement large qu'on ne sait plus où donner de la tête. Alors, plus on arrive à être un peu... C'est plus agréable pour celui qui parle et je crois que c'est plus fort pour ceux qui reçoivent, il me semble. Vous, les jeunes, venez là, au premier rang. Voilà, super, merci. Voilà, super. Eh oui, comme ça, il faut profiter que vous avez des bonnes jambes. Voilà. Alors, effectivement, comme on vient de le dire dans cette petite présentation, j'ai cette grâce immense de partager cette expérience de vie. C'est jamais facile de parler de soi. On préfère parler de Jésus, de faire l'enseignement que je ferai demain, plutôt que de parler de sa vie, même si, évidemment, le but de raconter ce témoignage, c'est de montrer ce que Dieu fait dans une vie, non pas de parler de soi. Mais moi-même, je vais vous le partager dans quelques instants, ma vie a changé parce que quelqu'un a accepté de traverser l'Atlantique pour venir partager son histoire. Et c'est en entendant ce témoignage que moi-même, j'ai changé de vie. Alors je me dis, ça vaut le coup de parcourir le monde pour répondre à toutes les invitations. J'étais il y a 15 jours au Liban. Je reviens juste entre les deux de Rio de Janeiro, où j'ai pu vivre CGMG avec le pape. Et donc, j'ai cette grâce de pouvoir parcourir un petit peu différents pays pour pouvoir partager cela, parce que je sais que ce que j'ai vécu, d'autres peuvent le vivre. Vous allez me dire, certains d'entre vous, la plupart, je pense, vous avez déjà rencontré le Seigneur dans votre vie, mais par un témoignage, peut-être, c'est l'occasion de recevoir une grâce. Il y aura peut-être un seul mot qui rejoindra votre vie au-delà de « Ah, c'est une super histoire », mais un mot qui sera pour vous ce soir. Alors, il n'y a pas très longtemps, on m'avait demandé de témoigner dans un endroit qui s'appelle l'île d'Elbe. Je ne sais pas si les Belges connaissent là-bas. Nous, c'est connu parce que Napoléon, hein, avec ses histoires là-bas. Et donc, dans un fort qui est une prison à perpétuité. Toutes les personnes qui sont dans cette prison ont pris au moins 30 ans. Et là, je devais donner mon témoignage devant tous ces détenus. Je l'amenais pas large. Les gars qui étaient en face de moi, c'était pas des rigolos. Hein. Et moi, ma petite histoire, bon d'accord, j'ai vécu des choses difficiles, mais enfin, quand même comparé à eux. Et à la fin du témoignage, il y a un gars qui s'appelle David et qui vient vers moi et qui me dit... Ma, grazie per la tua storia, m'a colpito molto. Merci pour ton histoire, ça m'a beaucoup touché. Et puis, il y a un autre monsieur qui vient, beaucoup plus âgé, et je connaissais l'histoire de quelques-uns de ces personnes. Ce fameux David, je savais qu'il avait tué 3 personnes alors qu'il était sous l'héroïne. Et le monsieur qui était là, je savais parce que l'aumônier m'avait présenté quelques-uns d'entre eux, Le monsieur qui était là, il avait malheureusement violé et assassiné une jeune fille de 15 ans. Donc c'est quand même assez horrible. Enfin, il n'y a aucun meurtre plus horrible, mais voilà, c'est choquant. Le gars, il vient vers moi, le petit vieux, là. Ça faisait au moins 25 ans qu'il était en prison déjà. Et peut-être que je ne savais pas le dire. « Ma incredibile la tua storia! Sembra veramente la storia d'un film! » C'est incroyable ton histoire, on dirait vraiment l'histoire d'un film. Alors moi, qui connaissais la sienne, je me disais, moi, à côté de lui, c'est un dessin animé. Hein. Et puis, le gars qui est à côté de moi, le fameux David, il me tape sur l'épaule et me dit, et moi je réponds à ce gars-là, je réponds à ce monsieur, en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que si je n'avais pas rencontré Jésus, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Et le fameux David, qui était de l'autre côté, qui écoutait la discussion, me tape sur l'épaule et me dit en italien, « Io so, tu saresti qua con noi. » Moi, je le sais, tu aurais été ici avec nous. Voilà. Alors, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas du tout une histoire de film, c'est une histoire vraie. Tout ce que je vais vous raconter, c'est le réel. Et elle va peut-être vous aider à vous montrer qu'il n'y a aucun parcours de vie dans lequel le Seigneur ne peut pas agir avec puissance. Donc je suis né, j'ai 47 ans, donc je suis né à Nîmes, dans le sud de la France, dans une famille de 5 enfants, avec mes deux grands frères qui sont d'un père, et moi et mes deux petites sœurs d'un autre père. On va dire là, il n'y a pas grand-chose d'original, en tout cas, je ne sais pas pour la Belgique, mais pour la France, les familles recomposées, c'est plutôt classique. Ce qui est un peu plus spécial, c'est qu'à la naissance de ma petite sœur, la dernière, notre père est parti. Je ne l'ai jamais vu depuis. Père disparu. Mais non seulement père disparu, mais aussi père inconnu. Pourquoi? Parce qu'à ma naissance, il ne m'a pas reconnu à l'état civil. Ni moi, ni mes soeurs d'ailleurs. Attendez, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les questions pour un autre moment. Hein, même si ce que je dis peut vous percuter, ce qui n'est pas mal, parce que ça veut dire que ça rejoint peut-être votre vie. Et je prie pour vous, mais si je commence à répondre aux questions, je ne vais pas m'en sortir, je suis désolé, hein, d'accord? Donc je continue, parce que j'ai quand même un chrono, parce que j'ai un temps imparti, et j'essaie d'être fidèle aux organisateurs qui ont beaucoup de travail, et quand on dépasse, tout devient compliqué, voilà. Mais après la conférence, je prendrai le temps que vous voudrez, on pourra discuter jusqu'à 3h du matin, il n'y a pas de souci si vous voulez. Enfin, bref. Donc, du coup, il m'a fait perdre le fil. Oui, voilà. Donc, il ne m'a pas reconnu à l'âge de ma naissance. C'est-à-dire qu'à ma naissance, quand je suis né, il n'est pas allé à l'état civil pour mettre le nom. Si bien que toute mon enfance, quand j'allais à l'école, comme certains d'entre vous allez encore à l'école, au lycée, pour ça, ou en études, vous devez encore remplir ce fameux papier qu'on ne remplit plus lorsqu'on est adulte, qui est nom du père, nom de la mère. Après, quand on serait plus grand, on demandera votre nom. Mais quand on est plus petit, on met encore le nom du père, nom de la mère. Et c'est terrible! Parce que je me souviens du jour où j'ai dit à ma mère, « Maman, qu'est-ce que je dois écrire au nom du père ?» Elle m'a dit, « Tu choisis. Ou bien t'écris inconnu, ou bien tu te fasses entier. » Ben, je peux vous assurer que pendant toute une scolarité, chaque fois qu'on est devant cette feuille, qu'on en refait ça, et il y a peut-être parmi nous des jeunes qui n'ont pas connu l'un ou l'autre de leurs parents, vous savez de quoi je parle, à chaque fois, dans le cœur, ça fait « ça serre. » Et c'était en plus amplifié par le fait que mes deux grands frères partaient, eux, chez leur père tous les 15 jours. Parce qu'ils avaient leur père. Et nous, on restait à la maison avec notre mère. Ma mère, 27 ans, 5 enfants, seule pour nous élever. Dur, dur. On a connu beaucoup de difficultés, les feuilles d'adas, et j'en passe. À l'âge de 10 ans, ma mère rencontre un homme, elle tombe amoureuse. Cet homme-là s'appelle Martial, il n'est pas très à l'aise avec mes deux grands frères, pas très à l'aise non plus avec mes deux petites sœurs. Par contre, avec moi, une complicité va s'installer tout de suite. Il me prend en affection et il m'invite, il m'amène par exemple aux champignons, il m'amène à ramasser les champignons, il m'amène à la pêche, il m'a offert un chien, un boxer que j'ai appelé Sultan. Il m'a appris à l'apprivoiser et en apprivoisant, en m'apprenant cela, c'est un peu moi qui l'ai apprivoisé. Moi qui n'avais jamais connu mon père, moi qui n'avais jamais eu d'homme à la maison, là, d'un seul coup c'était... Et un jour il me dit ceci, René Luc, si tu veux, je vais te reconnaître. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Pour un enfant qui n'a pas connu son père, même si ce n'était pas mon vrai père, mais c'était extraordinaire que cet homme accepte de mettre, me donner son nom. Il n'y aurait plus la case vide. Je pourrais écrire son nom. Oh, j'étais plein d'espoir. deuxième année de vie avec lui. On doit déménager. Je dois changer de collège. Ma mère me dit, René Luc, dans ce nouveau collège où tu vas, il y a un petit Arsène, tout va bien. Dans ce nouveau collège où tu vas, est-ce que l'autre micro était pas meilleur? Parce que là, il faut forcer un peu. Non, ça va. Ah, super, il a mis un peu de gras, c'est un bon son ordinateur. Donc, c'est toute cette blague que faisait Emmanuel Tardif. Peut-être, non, un jour, il raconte cette histoire, il paraît que c'est une histoire vraie. Un évêque arrive dans un stade au Mexique, plein de monde, des milliers de personnes, il commence la messe. Comment tu perds, du Fils et du Saint-Esprit. Il se rend compte qu'il y a un problème avec le micro. Alors, il dit, nous avons un problème avec le micro, et tout le stade répond, et avec votre esprit. Donc, pour revenir aux choses plus sérieuses, où est-ce que j'en suis? La deuxième année, le Larsen est parti. La deuxième année, je dois partir dans ce collège. Et ma mère me dit, René-Luc, dans ce nouveau collège, je te demande de ne jamais prononcer le nom de cet homme, ce fameux Martial. Alors, c'était pas évident pour moi, c'est pas évident, mais on va y arriver. Le problème de ce nom va s'arranger. Et est-ce que c'est mieux celui-là? C'est pas mieux. Peut-être. Moi, c'est histoire de réglage, en fait. Donc, on a changé. Et ça, les organisateurs, vous me le décomptez. Hein, ça, parce que ça, c'est pas vu. Ça, moi, j'arrête. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est mieux, là. C'est mieux. C'est pas mieux. C'est bon? Allez, on va essayer de concentrer. Je vais essayer de me concentrer pour ne pas tenir compte de l'arsène. C'est très difficile. Vous savez, c'est aussi bête. Mais aujourd'hui, avec la technique d'aujourd'hui, on est hyper sensible à des petits détails comme ça. Alors qu'avant, Jésus parlait sans micro, c'était vachement tout simple. Mais nous, on s'est habitué à avoir un confort de voix. Et quand on l'a pas, c'est. Je coupe carrément. Non, non, c'est pas possible. Donc, excusez-moi, je descends. Ma mère me dit, René-Luc, je te demande de ne pas prononcer le nom de cet homme quand il va à l'école. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'il est recherché par la police. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? En plus, ce fameux nom que j'espérais avoir. Elle me dit, il avait un enfant, il n'a pas reconnu son enfant, ce qui était vrai. Mais elle ne me dit pas toute la vérité. La vérité, c'est que cet homme faisait partie du milieu du grand banditisme. Cet homme faisait des casses, des hold-up, enfin pas des hold-up dans les banques, plutôt des casses dans les entrepôts avec toute une gang. Et donc, il était vraiment tombé amoureux de ma mère. Il avait refait sa vie, c'était aussi une couverture inconsciente, peut-être des enfants, une femme, etc. Mais je crois qu'il est vraiment tombé amoureux d'elle. Et voilà. Mais c'est que petit à petit qu'elle a découvert ce qu'il faisait et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on était en planque, qu'on était en cavale. Donc, moi, ça m'impressionne. Et d'ailleurs, je découvre assez rapidement où il mettait son arme. Quand il sortait, il la mettait toujours derrière son dos. Un jour, d'ailleurs, je l'ai vu dans la pile de linge, je suis allé fouiller, j'ai trouvé le revolver dans la pile de linge, je prends le revolver, je regarde et tout, je remets à sa place, mais rassurez-vous, j'ai bien frotté la croix, je me suis dit, comme dans les films, je me suis dit, tu vois pas qui tout quelqu'un, on trouve mes empreintes, je suis mal. Donc, un jour, il m'amène, c'était, il y a eu des moments assez rigolos, hein. Un jour, il y a un ami à lui qui vient le voir avec vraiment le look du milieu, vous savez, l'allure un peu comme lui, et tout ce qui est tout ça. René-Luc, on va aller à la pêche, tu vas venir avec nous. Moi, j'étais trop content, ça faisait un moment où il ne nous avait pas amené à la pêche depuis quelques mois. Et donc, je voulais prendre la canne à pêche, le verre, enfin, tout ce qu'il y avait. Il me dit, non, t'as pas besoin de tout ça. Tu prends juste la grande poubelle et une épuisette pour aller à la pêche. Moi, j'étais un peu étonné. On arrive dans un trou d'eau, pour ceux qui connaissent le sud de la France, c'est un trou du Gardon. Et bon, il me dit, il se met à pied du trou d'eau avec son ami, il me dit, toi tu vas là-bas, genre au bout de la porte là-bas, et tu t'approches surtout pas. Tu prends l'épuisette et tu attends les poissons. Ah, j'étais vraiment surpris, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Je le vois de loin, parce qu'il tient un truc dans sa main, c'était noir, avec. Et en fait, j'ai su après que c'était du C4, du C4, un puissant explosif. Il le jette dans l'eau, ça fait une détonation incroyable, l'eau qui est montée, je m'en rappelle toujours, ça fait ça redescend, et plein de poissons dans mon épuisette, effectivement. Incroyable. Quand je suis devenu prêtre, j'ai appris que Jésus, au moment de sa résurrection, roi Saint-Pierre, qui ne peut pas pêcher, il lui dit, jette le filet de l'autre côté. Combien il a ramassé de filets de poissons? 153. Je suis désolé de dire tout ça devant les organisateurs de l'Emmanuel et les prêtres présents ici. Mais à la dynamite, on fait mieux que Jésus. Ça, c'est garanti. On en a laissé, c'est horrible. Et puis en plus, je pouvais, enfin, c'est lamentable. Et puis, c'était pas très écolo. Et puis, le lendemain, en plus, je pouvais pas en parler. Vous imaginez que j'arrive à l'école le lendemain en disant à mes copains, et tu sais quoi, avec mon beau-père, 14 ans, j'ai pêché la dynamite. Voilà. Donc, je ne pouvais pas en parler. À ce côté un peu amusant, malheureusement, a succédé un passage de notre vie beaucoup plus dramatique. Cet homme, parce qu'il sortait de moins en moins souvent, parce que certainement il y avait des problèmes au niveau de l'étau, du filet de la police qui se resserrait, cet homme-là a commencé à rester de plus en plus enfermé. Il sortait la nuit déjà avant, et là il sortait même de moins en moins. Il passait des mois entiers à ne faire que fumer des gitanes de maïs, à l'époque je m'en rappelle très bien, ces grosses gitanes jaunes là, et à fumer des bières. À boire des bières, est-ce que c'est à boire la bière. Et malheureusement, comme peut-être certains le savent dans leur expérience de vie, par des personnes de leur entourage ou encore pire par eux-mêmes, malheureusement, une personne, je ne parle pas d'une personne qui aime bien boire un petit verre de vin, une petite bière de temps en temps, je parle des personnes qui ont une addiction à l'alcool. Quand il y a cette addiction, trop souvent, il y a lié à cette addiction une violence qui peut apparaître, c'est pas systématique. Hein. Tout le monde n'a pas l'alcool mauvais, mais beaucoup de personnes, et des hommes notamment, peuvent avoir l'alcool mauvais, et quand ils boivent trop, ils perdent la raison, ils se mettent à être injurieux, et malheureusement, parfois, à lever la main. Et c'est venu progressivement dans la relation de couple de cet homme avec ma mère. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Petit à petit, le ton a monté, et à un moment, il a commencé à insulter ma mère, et un jour, il a commencé à frapper. Mais moi, c'était un choc. Cet homme que j'aimais, que j'espérais qu'il m'adopte, voilà que cet homme-là, non seulement était un gangster, mais en plus se permettait de frapper ma mère. Alors on avait nos chambres au rez-de-chaussée. Quand c'était trop violent, ma mère nous disait, les enfants, descendez dans la chambre. Et là on entendait la dispute, parfois les coups. Un jour, pendant une dispute plus forte que d'habitude, mon frère aîné qui avait une quinzaine d'années à cette époque-là, il entend la dispute. Il se précipite au premier étage. Je le vois passer devant moi avec des yeux remplis de haine. Il était assez costaud, assez même caractériel, beaucoup de caractère. Et caractériel, donc quelqu'un qui, quand il s'énervait, je me suis dit, là, le pauvre Marcel, il va passer par la fenêtre du premier étage à tous les coups. Mais quand il est arrivé, ma mère a eu peur pour lui. Elle s'est interposée. Elle a dit, non, ne te mêle pas à ça, c'est entre adultes. Elle a eu peur que lui se fasse massacrer par ce bonhomme. Mais lui, mon frère, il n'a pas pris comme ça. Il s'est senti rejeté. Lui, il était jusqu'à maintenant le chef de famille, le frère aîné, qui avait remplacé le rôle du père. Voilà que cet homme arrivait, frappait ma mère et tout ça, et en plus, elle refusait son aide. Il est descendu dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi il avait son vélo dans la chambre, dans notre chambre. Il prend le vélo, il enjambe la fenêtre, donc on était au rez-de-chaussée, il passe avec le vélo et il casse le carreau de notre chambre. Il passe devant moi, j'étais juste à côté de la fenêtre. Et il part en vélo, 70 km de nuit, il avait à peine 15 ans. Il est rentré chez son père et il n'est jamais revenu. Et mon autre frère l'a suivi. Si bien que ce soir-là, c'est plus qu'un simple carreau qui s'est brisé. C'est toute notre famille, vous voyez. On était vraiment unis comme les cinq doigts de la main, sortis du même ventre de la mère. C'est vrai que ça aide pour des demi-frères, des demi-sœurs, comme on dit, quand on est tous issus du même ventre, même s'il y a plusieurs papas, c'est pas pareil. Bon, il y a comme quelque chose qui nous unit. Hein. On était tous issus de la même maman. Et voilà que cet homme, alors que ma mère avait toujours gardé cette force de la famille, cet homme a réussi à briser cette union sacrée, on pourrait dire. Et c'était terrible pour moi. Quand j'ai écrit ce livre, sur la demande, moi j'ai jamais pensé écrire un livre, on me l'a demandé. Quand j'ai écrit ces lignes-là, par trois fois, j'ai pas pu retenir mes yeux de pleurer. C'est le seul endroit où j'ai pleuré en écrivant ce livre. Ce moment où je me remémore le départ de mon frère. C'était quelque chose de terrible, parce que je me suis retrouvé, moi, repoussé comme étant le chef de famille. Ma mère se confie à moi, comme malheureusement certains jeunes, parfois doivent entendre des confidences des adultes, alors que les jeunes doivent vivre leur vie de jeune, leur vie d'enfant. On ne doit pas tout partager à nos enfants, à nos adultes. Mais ils sont en telle détresse, en telle solitude dans les familles, mais même dans les familles bien cristaux, hein, qu'on en arrive à se confier à nos enfants, beaucoup trop jeunes parfois pour porter des choses d'adultes. Donc moi j'ai porté des choses difficiles. Et puis un jour, je vois ma mère sortir de la maison, la main sur le ventre, blanche. C'était au matin, et lui il a suivi, ils s'étaient disputés dans la nuit, j'avais entendu la violence. Je vous rappelle donc que j'étais plus que moi et mes deux petites soeurs, il n'y a plus mes grands frères. Je vois ma mère sortir, et lui, il a suivi un matin. Or, il ne sortait jamais en plein jour. Où est-ce que vous allez? Je leur demande. Ma mère me dit, on va à l'hôpital. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, en faisant la cuisine, j'ai dérapé, et je me suis planté un coup de couteau dans le ventre. Mais c'est ça, oui. Il avait planté dans la dispute un coup de couteau dans le ventre, un couteau de cuisine. Heureusement, petit couteau, et heureusement, sur le côté, ça n'a pas touché dans le vidéo. Mais aujourd'hui, un coup de couteau, demain, ça aurait été quoi? On a décidé de fuir. On a pris un taxi en pleine nuit, je ne vous raconte pas les détails. Bref, il nous a retrouvés, et puis un jour, c'est très difficile de fuir le milieu. Ils sont aussi bien renseignés que la police, vous savez. C'est comme quand on les compare à la mafia, à la pieuvre, mais c'est vrai. Quand ça vous prend un certain temps d'appui, vous ne pouvez pas partir comme ça. Un jour, il est arrêté par la police, et là, je suis soulagé. Il va aller en prison, on va enfin souffler. Et ma mère a cette réaction incroyable. Ma mère, je crois, fait partie de ces femmes qui a toujours espéré en l'amour, quoi, quelque part, même si elle a beaucoup vécu de difficultés, d'échecs, de souffrances, elle a toujours cru. Et elle me dit, non René Luc, on ne va pas laisser tomber Martial, on va aller le voir en prison, on va l'aimer, il va voir qu'on ne le laisse pas tomber, il va être touché, évidemment, et quand il sortira de prison, tu verras qu'il aura changé. Et effectivement, pendant un an, tous les jeudis après-midi, je me rappelle bien, Je n'allais pas à l'école, le directeur savait pourquoi, mais les autres élèves ne savaient pas. J'allais à la maison d'arrêt de Nîmes voir mon beau-père, presque tous les jeudis. Quand j'y allais, j'allais souvent seul avec ma mère. Lui, il parlait beaucoup à ma mère, il m'ignorait. C'était fini la bonne ambiance de l'époque. Et quand il est sorti de prison, il avait changé. Mais pas dans le bon sens. Il était encore plus odieux, il était encore plus violent, il avait fait des mauvaises rencontres. Enfin bref, une prison peut changer un homme comme une prison peut malheureusement endurcir un homme. De nouveau la violence, de nouveau les fuites. Ma mère est partie se cacher dans un hôpital. Moi, elle m'a passé dans un foyer de caractériel de la DAS. Je vous passe les détails de ce que j'ai vécu dans ce foyer. De très mauvais souvenirs. Un jour, sur le chemin entre le foyer et l'école, cet homme-là m'attrape, il me prend par la lèvre. Je suis surpris, il me choque par l'épaule comme ça. Et il m'oblige à organiser un rendez-vous avec ma mère. J'avais pas le choix. J'étais qu'un ado. Donc, j'organise ce rendez-vous. Ma mère vient. Elle attrape ma mère. Il la frappe avec la grosse carabine en tenant le fusil par le canon. Il lui casse plusieurs côtes. J'amène ma mère d'abord à l'hôpital faire les radios, ensuite au commissariat. Tout ça, donc j'ai à peu près 13 ans à cette époque-là. Et ma mère, le flic prend son arme, le commissaire, et on prend la voiture gyrophare. On rentre à la maison pour arrêter le gars. Le gars était parti entre-temps. Et le commissaire laisse sa carte à ma mère en disant, s'il se repointe, vous appelez la police, on arrive, on vous défendra, n'ayez pas peur. Je parle. On n'était vraiment pas rassurés. Quelques semaines ont passé, je ne sais plus exactement la notion, une semaine, deux semaines, trois semaines, pas très longtemps. Un soir, mon autre frère était revenu entre temps, celui qui est juste au-dessus de moi, Kaku. Et je suis à la maison, il y avait deux sœurs, ma mère, mon frère et moi. J'entends sonner à la porte. C'est un soir de novembre 1979. Il faisait nuit. Il y avait le réverbère dans la rue, là. Je regarde par la fenêtre, je vois que c'est Martial qui est là. J'ai peur, ma mère, au lieu d'appeler la police, décide d'aller lui parler. Elle descend. Ils discutent, moi et mon frère, on se met dans la chambre de gauche, fusil chargé, prêt à intervenir. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, on tirait aussi, on tirait sur ma mère, mais... Donc on était un peu comme dans un film, c'est vraiment bizarre, hein, mais c'était la réalité. On n'entendait pas ce qu'ils se disaient, évidemment. Et eux, ils ne voyaient pas parce qu'on avait la lumière éteinte dans la chambre. On regarde et on voit ma mère qui parle avec lui à travers le portail, et elle remonte dans la maison. On se précipite vers elle, qu'est-ce qu'il voulait? Et elle me dit, c'est bizarre, il est venu nous dire adieu. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'on entend une violente détonation. Il s'est tiré une balle en plein cœur. D'ailleurs, le titre de ce livre, Dieu en plein cœur, qui reprend le chapitre, au niveau du titre, d'une balle en plein cœur, où je raconte ce moment assez dramatique. Il se tire une balle en plein cœur, il est avachi. On se précipite à la fenêtre, on le voit au pied du réverbère, devant la maison, le sang qui coule sur tout son corps. On s'approche de lui et il meurt en disant ces mots dont je me souviendrai toujours en regardant ma mère dans les yeux. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Et il meurt. À ce moment-là, dans mon adolescence, vous pouvez bien imaginer, j'étais pas un adolescent très posé. J'étais plutôt assez, je sais pas comment dire, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. J'allais, je continuais d'aller au collège, mais je suivais pas beaucoup. À l'époque, je sortais avec des filles, je volais dans les magasins, pas parce que j'avais besoin de voler, c'était un peu comme un jeu pour moi. Un jeu où j'arrive à sourire avec l'autorité. Bref, il y a des interdits. J'avais une moto très jeune. J'ai eu cette passion très tôt, dès l'âge de 10 ans. J'avais ma propre moto à l'âge de 12 ans. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en moto, c'était une Beta MX, c'est ce qui T28. C'est une passion qui m'a duré très longtemps, jusqu'à il y a quelques mois. J'ai eu un grave accident avec un 800 GS BMW. Et depuis, je suis calmé, c'est fini. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, la moto, les filles, le vol, les copains, les copines, tout ce que vous voulez. Et surtout, une très mauvaise relation avec ma mère. À ce moment-là, je suis en pleine crise d'adolescence. Et vous comprenez bien qu'avec tout ce que j'avais vécu, ça n'arrangeait pas les choses. Déjà qu'un jeune, entre guillemets, normal, peut faire une crise d'adolescence violente, alors vous pouvez imaginer avec tout ça. Un jour de février 80, juste quelques mois après le suicide, nous vivions à ce moment-là dans une maison, un HLM, chez une amie, une cousine, parce que la maison avec le suicide, le sang, tout ça, c'était trop dur à supporter. Donc on avait essayé de mettre en vente la maison, on vivait là en attendant. Je rentre, ça faisait 3 jours, 3 nuits que j'étais pas rentré à la maison. Je rentre à la maison, à l'appartement. Ma mère était en rage. Mais où tu étais encore? Je lui réponds, ça te regarde pas. Elle me répond, si ça me regarde, je suis ta mère quand même. Je lui réponds du tac au tac, c'est bien ça le problème. Je sais pas pourquoi elle a pas aimé la réponse. Et c'est mis à me crier dessus. Moi, ma mère crie, je me casse. Donc, je ouvre la porte, je vais à l'ascenseur, j'appelle l'ascenseur. Ma mère était en pétard. Elle me suit. Je rentre dans l'ascenseur. Elle rentre derrière moi. Elle me dit, oh, allez, ça suffit maintenant. Tu vas m'écouter, tu vas m'oublier, tu vas rentrer immédiatement à la maison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je revois la scène, mais comme si je la vivais physiquement. Je me suis tourné vers ma mère. Je l'ai pris par le col de la cheville. Je l'ai sauvé, plaqué contre la paroi de l'ascenseur. Et je lui ai dit, toi, tu me fous la paix, sinon je t'explose. Et j'ai vu ma mère se liquéfier littéralement par la peur. Je me souviens toujours de ce regard. C'était le même regard qu'elle avait lorsque Martial levait la main sur elle quand j'étais présent. C'est un regard terrible, le regard d'une femme qui a peur. Elle était paralysée, tétanisée. J'en étais très fier. Même avec du recul, je me dis comment j'ai pu faire une chose pareille, moi, qui a haïssé cet homme qui levait la main sur ma mère. J'étais en train de reproduire ce que j'avais reproché ou ce que j'avais subi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle est partie. Plus jamais elle m'a adressé, elle m'a demandé quoi que ce soit. J'étais libre comme l'air. Et moi, je suis parti de mon côté rejoindre mes copains et mes copines. Et c'est à ce moment-là de ma vie où je prenais vraiment la pente glissante, vous voyez, de la délinquance, la pente de la violence, de la haine, que le Seigneur est venu à ma rencontre. Tout est passé par une femme extraordinaire qui s'appelle Marido. Marido, une bonne petite paroissienne, qui avait ceci de particulier, bon, je ne sais pas quel âge elle avait, dans mon souvenir d'ado, elle était déjà assez grande, assez âgée, mais bon, je ne sais pas. Mais elle avait ceci de particulier, elle faisait partie de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Je crois que certains d'entre vous connaissez. Normalement, quand on fait bien partie du renouveau charismatique, on aime deux choses. La louange et l'évangélisation. Un groupe de prière du renouveau qui se casse la figure, c'est qu'elle reste toute la louange. Elle était convaincue que sa foi, il fallait que ça se communique, elle déborde, vous voyez. Non, bah parce qu'il y a un truc que je ne supporte pas. Je m'excuse, mais je vous dévoile l'homélie, je fais quelques homélies sur France 2, à la messe télévisée, je vous fais le scoop, je vous fais en pré-annonce, c'est le thème de l'homélie que je vais faire le 11 août sur France 2, parce que je reprends des idées du pape François suite au GMJ de Rio sur l'évangélisation, tout ça, bossé sur l'évangélisation. Alors il y a une phrase que j'aime pas trop. Parce qu'il y a plein de prédicateurs qui la disent, des évêques, même, pardon, j'adore, j'aime beaucoup les évêques, mais oui, comme c'est bon tonnel, comme c'est bon tonnel, ne parle pas de ta foi, tant qu'on ne te pose pas des questions, méfie ta foi, méfie de telle manière lorsqu'on te pose des questions. Mais c'est vachement dangereux, ça.
Parce que t'as beau vivre, alors c'est super pour le petit français, à nous ça nous arrange. Hein. En fait, il faut surtout pas évangéliser, ce qu'il faut, c'est vivre les chemins chrétiennement. C'est génial, c'est le bon témoignage qui est d'abord avant la parole. Oui, mais tu t'es déjà vu, toi, passer dans la rue en étant un super chrétien avec ton beau sourire, mais tu te passes, hein, et puis t'as les gens qui t'arrêtent. Ah, c'est dingue, tu comment ça se fait que t'es si beau, t'es si rayonnant, tu dois être chrétien, non? Ça t'est déjà arrivé? Non, mais franchement, il faudrait refaire l'évangile aussi de Matthieu, chapitre 28. Allez, tirez Jésus, de toutes les nations, faites des disciples. Attendez, je vous pose des questions. Ça va pas. Il faut non pas imposer, mais proposer. Il faut être sportif, il faut essayer. Vous êtes dans un club de foot, machin truc. Tiens, en fait, t'as regardé le pape à la télévision. Ben, il faut lancer des pêches. C'est ça l'audace de l'évangélisation. C'est pas, tu crois en Jésus, toi? Non, c'est pas ça. Tu sais que Jésus t'aime, c'est pas ça. Non, je suis sportif. D'accord. Mais c'est quand même aller à la pêche. Bref, Marido. Elle vient à ma mère. Ma mère n'était pas du tout BCBM. Hein. Bien qu'à double marine. C'est raté pour toi. Alors, non, ma mère, c'était genre petit moulant, talon aiguille, rouge à l'air. Enfin, vous imaginez, elle était de là où elle vivait, quoi. C'est brave, Marido, quand elle voit cette femme, elle se dit, voilà quelqu'un évangélisé, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche une combine. Elle l'invite à une soirée d'évangélisation qui se passait à Montpellier, la ville à côté, exactement le 19 mars 1980. Pour la Saint-Joseph, ça, on l'a su plus tard. Bref. Elle dit à ma mère, voilà, il y a un monsieur qui vient de New York qui s'appelle Nicky Cruz, peut-être certains d'entre vous avez connu ce fameux livre, La Voix et le Poignard. Nicky Cruz, pasteur américain, qui était autrefois chef de gang. Il vient raconter son histoire. Si vous voulez, je peux vous y amener. Ma mère, ouais, peut-être, ouais, non. Elle n'était pas du tout intéressée. À ce moment-là, elle vit des choses dures, elle était un peu fermée. Mais par contre, sur le chemin, elle pense à moi. Et le soir, écoutez bien, le soir, elle arrive, elle me dit, vous avez vu que j'ai rencontré une dame qui se propose de nous amener à une conférence d'un chef de gang qui vient raconter comment ça se passe dans les gangs de New York. Ça t'intéresse? J'ai bien sûr que ça m'intéresse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma mère, Alex? C'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive dans le palais des sports. Il y avait donc plusieurs milliers, 2-3 000 personnes, je ne sais pas exactement, je me souviens toujours. Quand lui parlait comme ça, et moi j'étais sur le côté droit, ma mère était là aussi. La première chose que je fais, je me mets très loin de ma mère. Voilà, parce que la honte, tu restes avec ta mère, tout ça. Hein. Et j'écoute l'histoire. Le gars, il raconte son histoire, mais c'est incroyable. Il y a tellement de choses de sa vie qui m'ont touché, évidemment. Évidemment, frères et sœurs, je n'ai pas vécu du tout ce qu'il a vécu. Mais de même que je parcours la France et le monde, du Kazakhstan en Australie, aux États-Unis, pour parler que des pays à l'extérieur, eh bien, partout où je vais, mais surtout en France, combien de fois les jeunes me disent, mais ton histoire, elle passerait à la vie. Je m'appelle cette deux filles de Lyon, on a beaucoup bouleversé. Notre père s'est suicidé d'une balle en plein cœur. Au Liban, il y a à peine 15 jours, une maman qui me dit, mais voilà, moi j'ai aussi ce problème-là d'un fils, comment il faut faire, etc. Pas reconnu, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais tant de gens, vous voyez. Mais aussi des familles qui n'ont jamais vécu ça. Qui n'ont eu aucun problème, qui ont été élevées par des parents chrétiens. Et merci Seigneur, parce que ça c'est un grand et beau témoignage, mais qui du coup se réjouissent d'avoir été protégés de toutes ces épreuves, vous voyez. Donc bref, plein de passerelles. Si bien que, évidemment, s'il y a des passerelles dans la vie difficile, il y a des passerelles dans la solution au problème. Quand il s'est mis à parler de Jésus, j'ai compris que ce Jésus qui avait changé sa vie pouvait changer la mienne. À la fin de son témoignage, il a fait quelque chose à laquelle nous les cathos, en tout cas, je ne sais pas comment dire Emmanuel, mais d'une manière générale, les prêtres n'en sont pas trop habitués à faire ça. C'est ce qu'on appelle dans le mouvement des protestants faire l'appel. Alors, il y a une musique super, comme votre bon groupe de louanges, elle commence à toucher le piano, c'est vachement délicat et tout. Et il y a le pasteur qui dit en gros, voilà, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, ce soir, je vous propose de le rencontrer. Vous allez voir quand même. Hein. Je vous demande de vous lever. Une fois, je témoigne comme ça, je ne sais pas si tout. Non, attends un peu, quand même. Je vous demande de vous lever et de venir, de descendre devant le podium, de vous mettre à genoux. Je crois que vous allez faire ça dans la vie de miséricorde, c'est très bien la session, à un moment comme ça, une démarche. On ne va pas le faire ce soir, mais on va le faire intérieurement. Hein. Mais, voilà. Et s'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le Seigneur, je pense que c'est un petit peu la majorité, j'ai l'impression, eh bien, tant mieux. C'est l'occasion pour vous de venir aussi pour demander d'être renforcé dans votre foi, dans votre confiance en Dieu, de lui faire totalement confiance. Moi, j'écoute tout ça. J'ai envie d'y aller, mais j'ai honte. Je dis, je vais m'enlever devant tout le monde et tout ça. Je regarde surtout si ma mère ne me voit pas. Voilà. Il y aura des jeunes qui commencent à descendre. Alors, c'est vrai que le Seigneur m'a donné cette joie de beaucoup être invité à prêcher auprès des jeunes. J'ai une joie de prêcher avec toutes les générations. Alléluia. Vous regarderez d'ailleurs sur les textes sur Internet de le pape François, qui en allant au GMJ le premier jour, a parlé des grands-mères et du respect et de l'amour qu'on envoie pour nos grands-parents. Ça, c'est magnifique de le faire la première journée des GMJ. C'est top. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas deux églises avec une seule église. Voilà. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien chez les jeunes, c'est leur audace. Et ce n'est pas pour rien qu'à Montpellier, ce soir-là, ce sont des jeunes en premier que j'ai vu se lever. Ils sont simples, ils sont spontanés. Gardez cette simplicité de cœur. Le Seigneur a besoin de vous à cause de ça. Vous n'êtes pas des. Nous, des adultes, tous sont vieillis, tous sont réfléchis. C'est pour ça qu'on devient dans des cheveux gris, la matière grise. Oui. C'est vrai. On a tout en matière grise, alors du coup, ça a blanchi. Hein. Non, c'est une blague. Mais c'est vrai qu'on a tendance à un peu trop raisonner. Quand on est jeune, c'est encore l'élan du cœur, la spontanéité. Il faut garder ça. Mais attention, il y a plein de personnes sages qui gardent la spontanéité du cœur. Il n'y a pas de problème. Bref, je décide d'y aller. Je descends devant le podium. Et là, je me rappelle qu'au début, je m'avançais. Je faisais du coude au milieu des gens parce que je voulais voir Nicky Cruz de plus près. Puis, il était tellement brillant, ce gars-là. Lord Jesus Christ, I praise you. You change my heart, Lord. Come on, Holy Spirit. Forgive my sins, Lord. Viens, Esprit Saint, viens avec ton Esprit Saint. Tu as changé mon cœur. Viens pardonner les péchés de tous ceux qui sont là. Viens changer leur cœur. Viens, Esprit Saint. Il était tellement brillant que moi, petit à petit, j'ai oublié le bonhomme. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à entrer dans cette prière. Et là, il m'est arrivé. Je peux dire en toute simplicité. Alors que j'étais, je ne connaissais rien à la religion. J'étais juste baptisé comme dans ma petite enfance, là. Mais j'avais pas pratiqué ni rien. J'ai reçu, moi je peux dire, ma première effusion de l'esprit qui s'est manifestée par ce truc dans le cœur et des larmes qui commencent à jaillir. Des larmes. Vous savez, pour un ado et un garçon en plus, le cœur est tellement dur que le réservoir des larmes, souvent, il est bloqué. Hein. Concrètement, petit flashback. Nous sommes le 19 mars 80, en novembre 79, le lendemain du suicide du Réla Morgue. Je n'ai pas pleuré dans la mort de mon beau-père. J'arrive à la morgue, ma mère est en pleurs à côté. Elle se ressaisit quand j'arrive. Je devais accompagner le corps avec le corbillard, c'était juste en confirme avec l'église. C'était la première fois de ma vie que je voyais un cadavre. J'en avais jamais vu. Je m'approche, c'est intrigué. Ça, il était dans un truc, une morgue, c'était froid là. Donc j'avais envie de toucher pour voir. Je touche sa joue. Et je dis à ma mère, oh, c'est bizarre. On dirait que tu pouvais voir au supermarché. Alors, si je dis ça, c'est pas du tout par manque de respect pour Marcel, que Dieu est son âme, et j'ai tellement prié que j'espère qu'il fera partie de la miséricorde du Seigneur, fait qu'il sera au ciel. Ça, c'est Dieu qui le sait, moi j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais un ado. Devant la mort, réagir comme ça, c'est grave quand même. C'est vraiment grave. 3 mois après, je suis devant un pasteur, et là, il y a tout qui fond. J'ai expérimenté Ézéchiel 36, hein, ce fameux verset que vous devez connaître par cœur. J'ôterai ton cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair. Et le verset continue, je ferai que tu entendes ma voix et que tu écoutes et que tu suives mes commandements. C'est trop beau. Mais d'abord, c'est j'entends ton cœur de pied, je donne un cœur de chair. Donc, on est dans la voiture de retour. Marie-Don se tourne vers ma mère. Alors, madame, vous avez aimé ma mère? Non. Ça aussi, c'est étrange. Hein? On peut être deux personnes dans la même famille. On vient écouter un témoignage, ou on vient faire écouter un enseignement, faire un pèlerinage, venir à Beauvais, tout ça. Il y en a un qui va être complètement bouleversé, et l'autre qui va revenir sans rien avoir reçu. C'est drôle, hein. Mais c'est super. Ça montre qu'il y a le temps de Dieu, mais il y a le temps de ta liberté aussi. Il n'y a rien de systématique. C'est pas du mécanisme. Nous ne sommes pas en train de faire la manipulation psychologique. Si c'était la manipulation psychologique, tout le monde serait devenu le même fruit. C'est beaucoup plus subtil. C'est l'aventure d'une âme avec la grâce de Dieu. Mais surtout, ne comparons pas et laissons le temps au temps. Voilà. Donc, elle se tourne vers moi, cette fameuse Marido, et elle se dit, et toi, René, tu as aimé? Et moi, j'ai répondu tout à côté. Ah ouais, moi, je veux tout connaître sur cet homme. Elle me dit, qui? Ni qui? Je dis, ben non! Jésus. Et ça, c'est génial. Parce que nous, quand nous parcourons, voilà, si nous avons un ministère de prédicateur, ou on a notre tête comme ça, sur les bouquins, machin, truc, attention, attention, il y a deux mots qui sont tellement forts avec le sacerdoce, c'est la mise en avant et la vanité. Mais par contre, être témoin, c'est aussi notre ministère. Et Jésus a choisi Jean-Baptiste. Les gens allaient vers Jean-Baptiste. Ouais, c'est toi le Messie. Non, non, vous vous trompez là. C'est lui le Messie. Mais ils allaient bien à Jean-Baptiste pour l'annoncer. Donc, quand nous prêchons à droite à gauche et que nous annonçons Jésus et que les gens se tournent vers Jésus, on a gagné. C'est pour ça qu'on existe. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour amener à nous. Vous voyez? Donc, évidemment, c'est ça qui est génial. Nicky Cruz, il a réussi son job avec moi. Il m'a présenté Jésus et j'ai reçu Jésus. J'ai changé de vie. Évidemment, j'ai acheté aussi son bouquin pour pouvoir connaître un petit peu la vie de Nicky Cruz, ça m'intéressait. Mais c'était d'abord Jésus que j'ai rencontré. Et justement, ma deuxième chance, c'est qu'après avoir eu, on va dire, la semence faite par Nicky Cruz, j'ai eu Marido. Je vous souhaite tous d'avoir une Marido dans votre vie. Marido, quelle patience cette femme, mais quelle patience. Moi, je m'en rappelle toujours. Elle était là, alors René Luc, je vais t'amener un groupe de clients. Mais moi, j'avais un simple caractère, vous ne pouvez pas imaginer, ça ne s'est pas beaucoup arrangé avec le temps. Mais la pauvre, je me rappelle, une fois, elle m'a amené elle m'a amené dans le groupe de prière du renouveau où j'ai appris à jouer de la guitare. Je me dis, bien, c'est, voilà, c'est ce qui m'a amené plus tard à fonder un groupe de musique pour évangéliser qui s'appelait Tous. Voilà. On a fait un concert devant 60 000 jeunes, et oui, à Gerland, mon dernier concert, moi, j'avais 20 ans en 86, 60 000 jeunes au stade Gerland, quand même, ça ne fait pas ça. Vanité des vanités. Non, je vous dis la vérité, c'était venu pour le pape. Hein. Mais nous, on avait joué quand même. Et on a fait qu'une chanson. On l'a fait quand même. Tu t'as Père René Luc, tous, Gerland, et tu tombes sur la vidéo, Père René Luc a 20 ans, en train de jouer la basse. Ça, c'est cool. Le soir même, je posais la basse et je rentre au cimetière. Mais cette femme Marido, elle m'a pris en main. Et ça, c'est magnifique. Je le dis parce que vous pouvez tous être une Marido pour un jeune. Un Marido. Ou une Marido pour un jeune. C'est-à-dire, une fois que la graine est semée, il faut de la persévérance et de la patience pour accompagner un jeune. Ça grandit pas tout seul. Je me rappelle le nombre de fois où elle venait me chercher avec sa voiture pour m'amener au bout de prière. Notre génération, nos jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération événement Facebook. Tu viens à cet événement? Oui, non, peut-être. Tout le monde met peut-être. C'est plus facile. Voilà. Et bien, lorsque tu as quelqu'un qui vient te dire, bon, peut-être, mais moi je suis là, je t'amène dans ma bagnole, ça te bouge un petit peu. Ben, elle m'a amené. Et je me rappellerai toujours, elle m'a amené dans un groupe, dans un pèlerinage, à Lourdes, au mois de juin 1980. C'était peut-être certains d'entre vous qui étaient. Parce que ça ne m'étonnerait pas. C'était le grand pèlerinage, c'était assez connu, c'est pour ça que je dis ça. C'était le grand pèlerinage du renouveau charismatique national avec Emiliano Tartif en juin 1980. Ça vous dit rien? Il n'y a pas qui était là? Personne? Bon. Ah, vous étiez. Ah, bravo. Vous n'étiez pas, mais vous vous rappelez. Voilà. Mais Emiliano Tardif qui avait un mystère incroyable. Moi, j'arrive là, je vois Emiliano Tardif qui prie sur les personnes. Excusez-moi, mes frères et sœurs, parce que votre épreuve est difficile. Mais avouez que pour un jeune adolescent qui voit ce prêtre venir avec le Saint-Sacrement, il avait un charisme de guérison que Dieu lui avait donné. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Certains ont le charisme de parler, d'autres de guérir. Donc, tout le monde n'a pas le charisme de guérir. Mais lui, il avait. Avec le Saint-Sacrement, paf, les gens ils se levaient. Moi, je croyais que c'était normal, parce que je venais de me convertir. J'avais vu dans la parole de Dieu qu'il y avait des. Tu parles, j'en ai pas eu beaucoup là depuis. Mais ça m'a vachement fortifié ma foi. Vous pouvez imaginer, voir ces signes, ces prodiges, ces frères. Et un soir, à la grotte de Lourdes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné ma vie à Jésus. Je me rappelle très bien. Imaginez la grotte à 10h du soir, la pyramide de bougie. Il y avait plein de monde. Je me mets à genoux, je prie, et je dis à Jésus, Jésus, je te donne ma vie. C'était devant Marie. Je ne connaissais pas encore la spiritualité. Saint Louis Marie, mon fort, tout à Jésus par Marie, etc. Mais je me rappelle très bien. Attention, toi tu crois que je voulais donner ma vie à Jésus pour être prêtre? Non, non, non. Je donnais ma vie à Jésus parce que c'est normal quand t'es enfant de Dieu de tout lui donner. Mais il n'y en a pas. Et des jeunes notamment, ils n'osent pas donner leur vie à Jésus parce que, attends, tu vois pas qu'ils m'appellent bonne sœur? Ah non, hein? Vous savez pourquoi on donne? Mais il y en a peut-être aussi parmi vous. On donne notre vie à Jésus, oui, mais on discute. Même pour nos propres enfants. Hein, comme on dit, on aime bien que l'autoroute vienne, mais qu'elle ne passe pas dans mon jardin. Quand il y a un de nos enfants qui est appelé au sacerdoce, ah, c'est super, l'oncle des prêtres, les gens, mon fils qui appelle. Ouais, non, mais en fait, faut peut-être que tu fasses des études avant, tu vois, on ne sait jamais, etc. Bref, là, ce n'était pas la question, c'était vraiment donner ma vie à Jésus. Mais c'est, je voudrais être sûr que vous tous qui êtes présents ici, vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. Parce que certains donnent leur vie en discutant. Vous savez pourquoi on discute? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu n'est pas qu'un père. Si Dieu est un père, votre père, il a beau être parfait, gentil, il a plein de défauts. Il peut se tromper. Mais Dieu ne peut jamais se tromper. Il n'est pas qu'un père, il est Dieu. Donc tu peux tout lui donner. Il veut tout ton malheur. Parce que le moment où tu lui dis Seigneur, même si tu as 90 ans, que tu dis en vérité, je te donne ma vie, tu es simplement toi-même, fils de Dieu. Tu donnes à Dieu sa vraie place et tu deviens pleinement créature. Et c'est pas si évident que ça. Il y en a beaucoup qui. Ça discute. Bref, je donne ma vie à Jésus. Ça va avoir une répercussion assez incroyable quelques temps plus tard. Alors, j'hésite, avant d'aller plus loin, est-ce que je vous fais un petit morceau du groupe de musique? Ou est-ce que. Oui? En même temps, alors on va se lever, on va faire ça. Alors c'est un chant qui marche que dans la mesure où on le chante ensemble. Ça va aller, hein? C'est très simple, je dis une phrase. Et vous répétez. Et comme ça, on fait le truc ensemble. Par exemple, je dis Jésus vient vers toi. Il veut te donner sa joie. Glory, glory, alléluia. Viens donc et chante avec moi. Et après, on fera ensemble alléluia, alléluia, alléluia. D'accord? C'est tout en question-réponse et puis jusqu'à. Jésus vient vers toi. Il veut te donner sa joie. Glory, glory, alléluia. Viens donc et chante avec moi. Ensemble, alléluia. 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 Jesus died on the cross. He died to save the lost. Glory, glory, alléluia. Come on and praise the Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. I was blind but now I see. He gave his light to me. Alleluia, alleluia. Come on and praise the Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Jésus est mon bonheur. Je l'ai tué de tout mon cœur. Alleluia, alleluia. Viens donc et chante avec moi. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. For the last time. Alleluia, alleluia. On mettait une main comme ça en avant. Alleluia. Plus que 10 minutes avant de conclure. Pour conclure, 10 dernières minutes. Je vous ai dit, vous rappelez, petit flashback, vous rappelez lorsque j'avais 13 ans et que j'allais voir mon beau-père en prison. Vous vous rappelez de ça? Ok. À ce moment-là, Donc c'est bien avant le suicide, la conversion, Lourdes, etc., etc. Ma mère me prend à part, me dit, René Luc, je te parle de ton père. Ce fameux père que je ne connaissais pas. Donc j'étais assez ému. Et elle commence par me dire, en fait, comment t'expliquer? Tu n'as pas, le père que tu crois avoir, ce n'est pas celui-là, parce que tu n'as pas le même père que tes sœurs. Ah, c'est quoi cette histoire? Alors elle me raconte mon histoire. Elle était en plein divorce, séparée de son mari, le père de mes frères, et elle vivait en masse de mon grand-père en Camargue. Et un homme, un Allemand, qui était rentré à la Légion étrangère, qui fait 7 ans de guerre au Maroc-Algérie, en sortant de la guerre, débarquant à Marseille, a fait un peu l'aventure dans le sud de la France. Et je ne sais pas si vous savez, mais à cette époque-là, on est dans les années 65, ça se faisait encore d'arriver dans les fermes, de demander le gîte et le couvert en échange de donner un petit coup de main à la ferme. C'était encore à l'époque, ça se faisait encore, c'était presque la fin. Mais... Donc cet homme passe, il sonne, et dit à ma mère, bonjour madame, est-ce que c'est possible d'avoir le gîte et le couvert pour une nuit? Et ma mère, toujours avec son grand cœur, oui, oui, pas de problème. Et comment vous expliquer les choses? Il était grand, il était blond, il avait les yeux bleus, il savait bien parler, il a pris le beurre, l'argent du beurre et la crémière, voilà. Et donc, ils ont vécu 3 mois, une passion assez folle, quoi, mais pas très sérieuse. Et puis, ben, ça marchait pas trop parce que lui, il est jaunaire, un petit coup d'alcool, droite, gauche, jamais violent avec des femmes par contre, ouf. Mais pas très stable, donc un jour, il a dit ciao, il est reparti en Allemagne, et puis ça s'est arrêté là. Manque de bol. Et il restait quelqu'un. Vous avez tous compris. Elle était enceinte. Imaginez la situation. Mesdames, qui avaient une certaine sagesse, en 65, un Allemand, c'était pas le copain du village, hein. C'était l'ennemi. Alors imaginez la situation. Cette femme se trouve, elle a 21 ans, elle a déjà 2 enfants, elle se trouve enceinte d'un troisième enfant, dont le père est un Allemand. Dont le père est un alcoolique, il sera un alcoolique comme son père, etc. Et en plus, qu'elle ne va jamais revoir qu'il reparte en Allemagne, enfin, c'est la catastrophe. Quoi. Et évidemment, tout le monde a poussé, enfin, tout le monde, beaucoup de gens, son entourage ont poussé pour qu'elle avorte. Et oui, et j'ai même entendu une fois de mes oreilles, tu comprends, René Luc, quelqu'un de la famille qui était pas très. Voilà, tu étais quand même le bâtard de l'ennemi. Quand même l'entendre, ça. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. C'est qu'un bâtard, ça peut faire sportif, ça peut être cinéaste, et ça peut même faire prêtre, hein, voilà. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est une femme, j'ai un livre, un chapitre dans mon livre, c'est pas le chapitre que les gens retiennent le plus, mais moi c'est un de ceux qui me touche beaucoup, il s'appelle Marraine d'un bâtard. Elle s'appelle Lucie, c'est pour ça que je m'appelle Luc, d'ailleurs c'est ma marraine. Cette femme, une paysanne, une mère de famille, très chrétienne, mais pratiquante, pas du renouveau, traditionnel, paroisse, dimanche, etc. Mais qui est très chouette. Quand elle a vu la détresse de ma mère, elle n'a pas hésité une seconde avec son mari et ses 5 enfants. Elle a dit à ma mère, tu viens à la maison, avec ton petit dans le ventre, deux petits, logé, nourri, blanchi, tu t'occupes de rien. Nous, on s'occupe de tout. Et même tout petit, quand il viendra, quand tu auras besoin de nous, on sera là. Incroyable. Cette femme m'a sauvé. Les familles d'accueil. Prête à accueillir une femme en détresse. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, j'apprends ça à l'âge de 13 ans. Ça me fait quand même un gros choc. 25 mai 85. J'ai 19 ans. Donc, 6 ans plus tard. Je suis en terminale au moment de passer mon bac à Lauréat. J'habite près de Saint-Malo à cette époque-là. Je reçois un coup de téléphone. Allô, je voudrais parler à René Luc. Voix que je n'ai jamais entendue. Bizarre. Je dis au téléphone, oui, c'est moi. La personne me dit, je suis ton père. C'est pas Star Wars, même si je m'appelle Luc. Hein. J'ai un gros choc. Comment vous appelez, je lui demande. Il me dit Gunther. Je dis, mince, c'est vraiment lui. Personne ne connaissait le nom de mon père. Personne. Même peut-être certains d'entre vous m'ont entendu témoigner il y a des années et des années. Je ne parlais pas de ça, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas mon père. Quand j'avais 17-18 ans, je ne connaissais pas mon père. Donc, du coup, et je ne racontais pas du tout que j'avais eu un. Je le savais depuis l'âge de 13 ans, mais j'en parlais pas. C'était un peu mon secret, c'est un peu. Waouh! Gros choc. Le lendemain, je lui dis, pas ce soir, ni demain matin, parce que demain matin, je passe. Ma dernière épreuve du bac, c'était l'oral d'allemand. Ma mère m'avait dit, on ne sait jamais si tu retrouves ton père un jour, il faut que tu apprennes un nom. Moi, j'étais devant, le lendemain matin, j'étais devant l'examinatrice. Un jour, je me suis dit, je suis gauche. J'avais rien à cirer, franchement. Je suis très fier de moi parce que j'ai quand même eu 7 sur 20 au bac d'un an. Hein, c'est pas mal. Et grâce au sport, 19 sur 20, j'ai eu mon bac avec 10,03. Conclusion, les garçons, faites du sport, ça va vous aider. L'après-midi, je vois mon père. Je ne sais pas ce que je dois faire, lui serrer la main, lui faire la bise. Je le vois arriver avec l'écran, mais pas du tout comme j'imaginais. J'avais toujours imaginé mon père autrement, mais bref. Et il vient vers moi, je lui prends la main, il me fait la bise. Et là, j'ai mon cœur qui bat la chamade, je suis coincé, si je ne peux pas parler. Il me dit, René Luc, je te demande pardon. C'est magnifique. Il a commencé par me demander pardon. Et il a beaucoup parlé. Moi, j'étais bloqué. Et lui, il a rempli le silence. Et il m'a raconté, tu comprends, je te demande pardon parce que c'est à cause de l'alcool que je ne me suis jamais occupé de toi. J'ai su, effectivement, il me raconte l'histoire, je savais déjà, j'ai rencontré ta mère, je suis parti en arrière. Ma mère avait envoyé une lettre en disant, voilà, d'un petit, elle n'a rien demandé. Elle n'a demandé aucun compte, ni rien, vous savez. Mais elle est normal qu'il sache au moins qu'il a un enfant. Et lui, il n'a jamais fait aucune démarche pendant des années. Et voilà qu'en 1980, il rencontre une femme qui l'aide à sortir de l'alcool. Et il se dit, maintenant que je sors de l'alcool, je deviens un homme avec ma dignité. Il a retrouvé sa dignité d'homme. Et donc il se dit, j'ai un enfant, il faut que je retrouve mon fils. Et il part à ma recherche. Il prend sa voiture depuis Berlin, où il habite encore maintenant. Il arrive en Clamart-Gonesse. Vous imaginez bien, depuis le temps, ma mère était partie depuis longtemps. Aucune trace, aucune nouvelle. Les voisins, personne ne sait où elle est. Il se dit, comment je vais faire pour retrouver mon fils? Et il se rappelle que quand il était à la Légion, on lui avait parlé d'un lieu où il y avait des miracles. C'est où? Il prend son voiture, il va à Lourdes. Mais comme il est protestant, je vous assure que c'est vrai, au lieu de mettre un cierge à la Vierge Marie, il met un cierge à Bernadette. Bénédicte. Il achète même la médaille de Bernadette qu'il a toujours gardée depuis. Et il dit à Bernadette, écoute, toi t'as 14 ans, t'avais 14 ans quand t'as eu tous tes machins spirituels, mon fils il va avoir à peu près cet âge-là maintenant, ben écoute, tu débrouilles-toi pour qu'il le retrouve. Et il repart en Allemagne. Une année passe, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années passent. 1985, nouvelle tentative, il reprend sa voiture, il revient au Massacama, il n'y a toujours personne. Il ne sait pas quoi faire. Il retourne pas loin, cette fois il marche dans la ville de Nîmes. Nîmes, c'est la ville où je suis né. Il le savait, que j'étais né à Nîmes. Une église est ouverte, il rentre dans l'église, il voit le crucifix, et il dit à Jésus, Jésus, j'ai un fils quelque part en France. À ce moment-là, je vivais à Saint-Malo, 800 km, c'est pas très loin. Voilà. J'ai un fils quelque part en France, aide-moi à le retrouver. Il sort de l'église. Il marche dans la ville de Nîmes au hasard. Eh bien, figurez-vous qu'au gré de cet errement, il est tombé, il s'est arrêté devant une porte. Cette porte, c'était la porte d'entrée de la maison, tenez-vous bien, de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de ma mère. Et l'arrière-grand-père, qui était protestant, était très fier que ma mère, à l'époque, sorte avec un protestant. Donc ma mère l'avait amené une fois ou deux, pendant les 3 mois, elle avait vécu une aventure vraiment passagère. Mais donc il a retrouvé cette porte, il est rentré, il a sonné. Et évidemment, mon arrière-grand-père était mort depuis longtemps, mais les gens qui étaient là, par chance, il gardait le numéro de téléphone de mon oncle et c'est comme ça que par mon oncle il est remonté jusqu'à moi. Et la chose la plus incroyable, et je finis avec ça, c'est que je dis à mon père, mais quand est-ce que vous êtes venu la première fois me chercher? Il dit, oh, ça je me rappelle très très bien. C'était le mois de juin 1980 que je suis allé à Lourdes, je venais juste rencontrer Sigrid et que je demandais à Dieu pour la première fois de m'aider à te retrouver. Et moi je lui dis, mais c'est dingue. Je me dis pourquoi? Parce que le même mois, de la même année, je venais juste d'aller à Lourdes et de donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, il y a une webcam devant la grotte. Si elle avait été installée, j'aurais piqué les disques durs, évidemment. Enfin, je vais demander les disques durs. Mais c'est la première chose que je vais faire aussi. Quand je vais arriver là-haut, je vais dire, Jésus, mets-moi dans la salle de ciné, pas pour voir tout le reste, parce que là, je suis pas très fier, mais pour au moins cet endroit-là, hein, ça... Non, je veux dire, le reste de ma vie, pas forcément louable partout, malheureusement, ça serait trop bon. Mais ça, j'aimerais tellement voir cette scène. Peut-être, je le saurais possible. Il y avait un homme devant la grotte, devant Bernadette pour être plus précis, demandant à Dieu la grâce de retrouver son fils. Et au même moment, il y avait un jeune ado qui, lui, demandait à Dieu rien, mais disait à Dieu, je te donne ma vie. Et ça, la prière de mon père a été exaucée 5 ans plus tard. Voyez. Et bien ça vous montre que la meilleure façon pour permettre à la providence d'agir dans vos vies, c'est bien sûr de lui demander, mais surtout de tout lui donner. Abandonnez-vous, faites-lui confiance, et il vous surprendra toujours. Amen.
Du Seigneur présent dans son entier Saint-Sacrement. Je vous invite à imaginer Jésus qui vient frapper à la porte de votre cœur. Apocalypse 3, 21, voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte, je frappe. Imaginez une maison qui représente votre vie. Cette maison, elle a une porte sur l'arrière. Au pied de cette porte, il y a beaucoup d'herbes. Sur le mur, sur le toit, partout, du lierre, des ronces. Ça n'a pas été entretenu depuis longtemps. Et Jésus est là avec sa grande tunique blanche. Il frappe à cette porte patiemment, même si depuis longtemps la porte n'a pas été ouverte. De l'autre côté de la maison, il y a d'autres portes qui donnent sur des choses belles, sur l'art, sur le sport, sur le service social. Peut-être d'autres portes moins belles. Sur l'égoïsme et la jalousie. En tout cas, beaucoup de portes que nous avons ouvertes à l'une ou l'autre occasion, ou que nous laissons grandes ouvertes en permanence. Revenons à la porte de derrière, celle qui semble en tout cas être fermée depuis pas mal de temps, on se rend compte qu'il y a trop de serrure. Peut-être que cette porte a été fermée à clé plusieurs fois. Le décès de quelqu'un à qui elle était très attachée, une épreuve familiale, la perte d'un travail, un échec d'un examen, une trahison, une déception, une maladie. Une épreuve physique, une épreuve morale, peut-être même une épreuve spirituelle qui a fait que nous avons donné un tour de pied à notre porte.
Parce que même si nous avons l'impression de vivre en chrétien, nous avons aussi l'impression que la porte est fermée, que Jésus ne peut plus entrer comme il était entré auparavant. Et puis quand on regarde un peu plus attentivement cette porte, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de poignée. La poignée n'est pas du côté de Jésus. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Jésus ne peut pas ouvrir cette porte. Personne d'ailleurs, même un envoyé de Dieu ne peut pas ouvrir cette porte. La poignée, elle est à l'intérieur de ton côté. Et Jésus te demande de commencer par lui remettre ces tours de clé qui t'ont fait mal. En acceptant de les remettre, c'est comme si la clé retombait dans l'autre sens. Simplement les déposer, non pas les analyser, mais juste les déposer. Et puis, ensuite, tout simplement, de t'imaginer en train de mettre ta main sur cette poignée à l'intérieur de toi-même et d'ouvrir la porte sans même prononcer un mot, avec ton intelligence, simplement l'attitude du cœur. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous dînerons avec lui. Celui qui écoute ma parole et observe mes commandements, dit l'évangile de Jean, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Ouvre la porte de ton cœur maintenant. Laisse Jésus entrer ou en tout cas entrer de nouveau et s'installer dans ta vie, dans ton cœur. Après l'image de la porte du cœur, je propose, en présence de Jésus, d'exposer une petite méditation sur l'exemple biblique des deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs, comme vous le savez, partent le dimanche après-midi alors que Jésus est ressuscité le dimanche matin. On pourrait croire qu'ils n'ont pas entendu l'annonce de la résurrection. Comme si ils étaient fait rattraper par la nouvelle, la bonne nouvelle. En fait, non. Quand Jésus va leur rencontre sur le chemin qui descend vers Tibériade, c'est étonnant de constater qu'ils sont au courant que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qui nous arrive On est tellement triste, on est affligé parce que ce Jésus a quitté notre espoir et est ressuscité. Et puis il rajoute, ce matin, une femme est venue dire qu'il était ressuscité. Et ça peut entendre que les gens sont allés voir ce que la femme avait dit, mais ils n'ont pas vu Jésus. Parfois dans nos vies, on tourne le dos à la vie. Alors qu'on nous a annoncé la résurrection, on n'est pas convaincu. Ceux qui sont annoncés sont pas dignes de confiance, comme on n'a pas cru dans la manière. Pourquoi? Pourquoi on aurait cru plus facilement bien les gens et pourquoi on ne croit pas dans la manière? C'est mystérieux. Ces deux hommes s'enferment dans la tristesse alors qu'en fait on vient de leur annoncer une bonne nouvelle. C'est aussi étonnant de voir qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est souvent sa manière de fonctionner à Jésus. Dans les moments joyeux, c'est souvent plus facile de découvrir sa présence. Dans les moments douloureux, on a plus de mal à le reconnaître. Et Jésus, comment il se rend présent à eux? Tout simplement en rentrant dans la parole de Dieu. On aurait pu avoir les plus beaux témoignages, les meilleurs prédicateurs qui viennent dans une session à Boran. Rien ne remplacera l'annonce directe, la parole de Dieu, la lecture directe. La parole de Dieu dont nous a parlé, je pense, le Père Valentin, ce matin. Et ça, en écoutant Jésus commenter la parole de Dieu, que leur cœur se réchauffe. Notre cœur n'est-il pas plus brûlant d'amour lorsqu'il nous commente les Écritures? Et il continue de marcher. Et cette foi, cette tristesse commence à s'en aller. Le cœur se réchauffe. La parole de Dieu vient retirer la tristesse. Une personne qui se trouve franchement à l'écoute de la parole ne peut pas demeurer dans un désert. La parole est vie. Elle est vivante, elle est efficace. Elle est incomparable avec tout autre livre, même si c'est mieux écrit, même si c'est plus spirituel, mystique, même si c'est plus existé sur cette terre. Il n'y a pas d'autre efficacité que celle parfaite de la parole de Dieu. Donc, c'est bien qu'on ne voit pas le temps passer, c'est déjà la nuit. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin alors que vous êtes fatigué de s'arrêter dans une auberge. Et là, il y a ce cri du cœur d'un des deux disciples, on ne sait pas lequel, qui dit: reste avec nous. Reste avec nous. Ce cri du cœur, nous pourrons le dire ce soir. Nous pourrons le dire à plusieurs moments de notre vie. Jésus, reste avec nous. Pour le répéter ensemble maintenant. Jésus, reste avec nous. Jésus, reste avec nous. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Tu lui dis de rester, peut-être que tu ne sais pas qui s'assoit en fait à ta table. Parce que tu ne le connais toujours pas. Et pourtant bien présent. Et voilà que après la parole de Dieu efficace, voilà que maintenant Jésus prend le pain. Il le bénit. Et au moment de la fraction du pain, les disciples le reconnaissent. Mais au moment où ils le reconnaissent, ils disparaissent. Comme c'est étrange. Imaginez-vous que vous retrouvez un ami que vous avez perdu depuis longtemps, au moment où vous le reconnaissez parce que, par exemple, il vient de se raser, vous n'avez pas encore jusque-là, vous le prenez dans vos bras et en fait, il disparaît. Ça vous ferait vraiment bizarre. On peut comprendre l'étonnement des apôtres. Quel est le message que Jésus a voulu donner? qui vient pleinement voulu expliquer aux apôtres de Sibérius que il ne pourrait plus être présent de la même manière. Il continuera de rechercher les cœurs par la parole, oui, mais sa présence physique corporelle sera plus de chair et d'os, mais dans la chair et l'os, si je puis dire, de l'Eucharistie. Jésus présentement, c'est simplement, il est vraiment présent, c'est-à-dire qu'en ce moment, il nous regarde avec ses yeux. Son cœur bat. Ce n'est pas une configuration. Un symbole. Non, nous croyons dans la foi de Christ, c'est une présence réelle. Et les disciples ont perçu ça parce que, au lieu d'être traumatisés par l'absence, ils repartent dans la joie. Ils l'ont reconnu, mais c'est une disparition et en même temps une reconnaissance qui demeure. Oui, Jésus est bien là dans l'Eucharistie. Quel grand mystère! Quelques signes ont pénétré ce mystère. Je pense à Paul Empire, je pense à Marthe Romain. Quelques signes ont pénétré ce mystère de manière plus profonde, surnaturelle. Mais nous, à notre petit niveau, nous le croyons dans la foi, même si nos yeux se portent que sur du pain. Dans la foi, nous savons que c'est plus que du pain. C'est ce qui donne le courage et la joie de repartir, de retourner sur le pas, de refaire tout le chemin, le soir même. Vous n'attendez pas le matin, en pleine nuit. Parfois, dans nos vies, il faut refaire une partie du chemin dans l'autre sens. Et quand ils arrivent le soir, ils croient lancer la bonne nouvelle aux 11 apôtres, mais en fait, les 11 apôtres, eux aussi, ont la visite de Jésus. Et c'est une, on va dire, une effervescence d'annonce de la résurrection, de joie. La porte du cœur est ouverte à la présence de ressuscité. Et c'est la joie qui demeure. Et c'est le courage de partir en mission. Et c'est une vie qui change. Oui, frères et sœurs. Quel que soit le cap de votre vie, que vous reconnaissez Jésus ou non, laissez-vous rejoindre par la parole de Dieu, par l'Eucharistie, et laissez votre cœur se remplir de sa présence, car sa présence vous donnera la vraie joie.